y a ces lieux isolés du reste de la société. Ces autres lieux, hôpital psychiatrique, couvent, EHPAD. Celles et ceux qui y vivent développent leur monde intérieur, parfois tourmenté et torturé, parfois apaisé et accompli. Se produit alors un exil intérieur. Il n'implique pas nécessairement un itinéraire de l'ici à l'ailleurs. C'est un exil en soi, une distance par rapport à la réalité et même parfois une fuite dans l'imaginaire. Voici donc 5 histoires, 5 récits intimes, 5 exils intérieurs. État des autres lieux, un podcast produit par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'IUT de Lannion. Épisode 1.
C'est comme s'il y avait... On ressentait le vide à l'intérieur de soi, et partout, dans la tête, dans le ventre.
Fleur, le handicap voyage dans le néant.
C'est comme si on se sentait vide dans soi, mais qu'on ne sait pas pourquoi.
Un épisode présenté par Cyprien Michel. Verne-sur-Seiche, Ille-et-Vilaine. Fleur a 23 ans. Elle est atteinte de plusieurs troubles de l'apprentissage.
J'ai une dyspraxie, des traits autistiques, mais aussi des problèmes liés à la motricité et à la marche. Il y a des problèmes de coordination, de se repérer dans l'espace, c'est-à-dire pour repérer des lieux sur une carte, les gestes de la vie quotidienne aussi. C'est très compliqué. Encore aujourd'hui, ça demande plus de temps et plus d'efforts. Et ça, c'est depuis ma naissance. En maternelle, ça se passait bien, mais j'avais des amis. Avec les professeurs, c'est qu'ils ne comprenaient pas bien, mais ils ont essayé de s'adapter pour que je me sente épanouie.
Fleur a bénéficié d'une AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, pour l'aider au quotidien à l'école.
Le décalage est arrivé au début du collège. Là, c'est là que j'ai senti qu'il y avait une différence. Mais moi, je me sens normale, je me sens comme tout le monde. Et les autres élèves me faisaient comprendre qu'il y avait des situations où je ne réagissais pas de la même manière. J'avais du mal à m'intégrer à un groupe et ce qui pouvait passer pour quelqu'un ne passait pas pour moi. Les blagues, je ne les comprenais pas et les autres rigolaient, mais moi, ça ne me faisait pas rire du tout et je me sentais blessée. De beaucoup de tristesse, voyez, d'inquiétude aussi, parce que j'avais peur aussi que les autres m'en veulent. De ne pas comprendre. La sixième a été une année très difficile. Vraiment. Où j'ai un point, j'étais seule pendant le temps du midi, pendant les pauses. Personne ne me disait de venir avec eux. Moi, j'étais là, moi, je voulais apprendre. Les cours me passionnaient, mais j'étais vraiment heureuse d'aller au collège, mais. Mais en fait, non, ouais. Après, au fur et à mesure de l'année qui avançait, non, je ne prenais plus de plaisir. J'avais toujours la boule au ventre ou des angoisses et mes parents l'ont remarqué aussi que je ne me sentais pas bien, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et donc, en fin d'année, ils ont décidé de me changer d'établissement.
Voyage au centre d'un cerveau d'autiste, de Babouyek, aux éditions Rivage. Pourquoi doit-on punir les errances mentales nées d'un cerveau différent? Pourquoi certains nous reniflent comme des êtres à enfermer? Pourquoi, dans la classification ethnique, un humain est un humain, et dans la classification sociale, le mot « classe » est mis en lumière, le mot « humain » est éteint. Quelle est la classe des énergumènes répertoriés très déficitaires mentalement, dont le mutisme renforce l'obsolescence? Darwin, pressenti autiste post-mortem, doit rire dans sa tombe. Je souris, en hommage à mes sœurs et frères d'âme au cerveau entrés en résistance sociale, en devenant des personnes ressources dans leur voyage interneuronal.
Les animaux ne jugent pas, ils sont à l'écoute, hein, mais aussi c'est parce qu'ils sont très sensibles aussi. Et j'ai plus de facilité à aller vers eux, à être avec eux, parce qu'ils me comprennent. J'ai l'impression qu'ils me comprennent.
Plus que les humains ?
Oui, vraiment, oui. C'est ce que je ressentais pendant très longtemps que... Parce que des fois, j'aimais bien être seule. Mais des fois, j'avais envie d'aller vers les autres, mais les autres ne voulaient pas. Donc là, je me sentais seule, mais c'était un peu... C'était une solitude forcée, en fait.
Selon la Fédération française des 10, 7 millions de personnes sont atteintes de ces troubles.
Plus jeune, le sujet était très peu abordé. Même à la télévision, à la radio, je n'en connaissais pas. Et je n'avais pas de représentation, c'est-à-dire que je n'avais pas de modèle où je pouvais grandir et me construire. Je n'avais pas connaissance d'enfants qui sont dyspraxiques. Je ne savais pas ce que c'était en plus. C'était flou dans ma tête. Je me demandais si pourquoi est-ce que j'ai ça et ne pas avoir de bien se construire sans avoir de modèle ou sans pouvoir s'identifier à quelqu'un. Je me sentais à l'écart. C'était difficile. Quand je suis à la maison, là je me sens plus seule, mais que c'est comme il y a un sentiment de vide, mais très très présent. Et ça me fait mal. Mes sœurs, elles ont des amis, donc elles vont où elles veulent, donc elles peuvent sortir sans être accompagnées. Et moi non.
Pour voir du monde, Fleur est bénévole à la médiathèque à côté de chez elle. Et dans le collectif, la différence tout un art.
Mais je me sens moins seule parce que je vois du monde. Et puis je me sens utile parce que j'ai l'impression que j'aide vraiment. Que mon aide est utile pour les personnes qui en ont besoin. Et je suis contente si on arrive à les aider au maximum, si on peut faire quelque chose pour eux. Voilà, je me sens bien ensuite.
Dans l'acte se dévoile d'une part l'incomplétude de tout acte, d'autre part l'inadéquation du sujet à lui-même. Roland Obégi, psychomotricien spécialisé dans la psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence. C'est en cela que le sujet a horreur de son acte. Et nous pouvons considérer que le sujet en a d'autant plus horreur que l'incomplétude et l'inadéquation se répètent et se révèlent obsensiblement dans la maladresse. Cette horreur de son acte peut pousser le jeune à s'en défaire et à ne l'investir que dans des espaces où ses imperfections disparaissent. Or, les espaces virtuels sont les lieux ou non-lieux idéal pour réaliser ce fantasme d'un acte maîtrisé, neutralisé, asexué, déculpabilisant, qui ne confronte pas le sujet à sa division subjective.
Non, c'est fréquent. C'est un dessin d'une japonaise. J'aime beaucoup m'inspirer de personnages ou alors avec des costumes. Des personnages ayant des costumes traditionnels que j'aime beaucoup. C'est comme s'il y avait une sensation d'apaisement, que je me sens plus calme intérieurement. Souvent, il y a beaucoup de pensées qui arrivent et qui ne s'arrêtent pas. Et donc, oui, le dessin permet de ne plus penser à rien, d'être concentré sur un trait, le mouvement aussi, sur le personnage que j'ai envie de réaliser. Je me sens beaucoup mieux ensuite. Je me sens apaisée. Oui, c'est comme un cocon, en fait. C'est une bulle protectrice, un peu. Il n'y a pas les pensées négatives qui viennent m'embêter.
Fleur n'est pas la seule à être anxieuse. Près d'un enfant dyslexique sur deux souffre de troubles psychologiques. Cela peut être de l'anxiété, un déficit de l'attention ou la dépression.
Mes parents, ils savent. Mais c'est vrai que c'est pas facile tous les jours avec les troubles anxieux, oui. Il y a eu une période, oui, il y a eu beaucoup de moments difficiles pour mes sœurs parce que elles comprenaient pas, elles ne savaient pas ce qui s'est passé. Maintenant, elles comprennent mieux que ce n'est pas volontaire, que c'est pas pour les embêter. J'avais très très peur de l'abandon par rapport à ma différence. Mais non, je vois des personnes qui ont le même fonctionnement ou pas, mais je suis contente, je me sens bien.
État des autres lieux, un podcast produit par les étudiants et étudiantes en journalisme de l'UIT de Lannion. Réalisation, Cyprien Michel et Mathieu Riolan. Voix, Elodie Guézou. Remerciements à la poétesse Babouyek.